Je vais vous parler d'une prophétie de Shambhala qu'un maître tibétain a partagée avec Joanna Macy. C'est une grande écologiste depuis les années 70. Et elle a vraiment beaucoup de sagesse à partager avec nous. Et c'est à partir de tout ce qu'elle dit que je voulais faire cette conférence. Alors, cette prophétie de Shambhala, qui date du 9e siècle environ, dit: toute vie sur Terre est en danger. Les grandes puissances gaspillent toutes les richesses pour faire la guerre. Il y a la corruption, la famine et le pouvoir des despotes qui anéantissent la vie. Le royaume de Shambhala viendra alors pour nous sauver. Ces guerriers doivent parfaire un entraînement pour nous sortir de l'anéantissement total. Ils s'entraînent avec deux armes puissantes, la compassion et la sagesse face à l'interdépendance de toutes choses. On les appelle les guerriers de Shambhala. Et c'est vraiment une métaphore pour la forme bouddhique de Bodhisattva. Et je m'adresse à vous parce que vous êtes ces guerriers de Shambhala. Vous êtes cette figure de Bodhisattva parce que votre travail est justement lié à ces deux armes qu'il nous faut aiguiser pour faire face à ce qui arrive, c'est-à-dire la compassion et la sagesse face à l'interdépendance de toutes choses. Pour commencer avec la compassion, je voudrais faire venir notre amie Seyla Jürgen Gofres, qui a un livre sur la compassion. Il faut que vous le connaissiez, c'est une de vous. Elle a fait le DU en même temps que vous. La voilà. Et donc, Seyla, tu peux dire une petite chose?
Oui. Alors, mon dada, on va dire ça comme ça, c'est l'autocompassion. C'est comment prendre soin de soi. C'est comment avoir une attitude soutenante, bienveillante vis-à-vis de soi-même. Comment savoir ralentir, comment savoir faire face à ses difficultés. Donc, à partir de mes expériences par rapport à ma vie familiale, j'ai écrit un livre de partage où j'explique en fait quelles sont mes pratiques d'autocompassion. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je laisse la parole à notre super Anne Soulet. Et puis, je peux répondre à vos questions, si vous voulez, au fond. J'ai le bouquin, si vous voulez.
Oui, donc, Seyla a proposé de vous rencontrer après la journée. Si vous voulez aller la voir, demandez son livre et tout. Elle le fera après. Je voulais que vous reconnaissiez qui est Seyla. Voilà. Donc, pour cette compassion, il y a tout un chemin que nous avons à apprendre. Et spécialement vous, c'est vous, ces guerriers qui allez aider le monde à faire face à sa souffrance quand elle arrive. Thich Nhat Hanh disait bien: ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'écouter en nous les échos de la terre qui pleure. Donc c'est le premier axe. C'est-à-dire utiliser la compassion, la capacité de solidarité pour ceux qui souffrent. Et c'est là que vous entrez là-dedans. C'est là votre travail, c'est ça que vous avez appris à faire avec la pleine conscience, pour faire face à ceux qui souffrent dans les génocides, les guerres, les inondations, les feux géants, les catastrophes. Tout cela va aider ces personnes vers un acte, faire un acte de guérison. C'est intéressant de remarquer qu'après le confinement, finalement, beaucoup de monde a réalisé la beauté du monde et qu'ils allaient trop vite et qu'il fallait s'arrêter. C'est ça qu'on a appris avec le confinement et c'était magnifique. C'est une pratique spirituelle et enfin les gens sont revenus à ça. Cette pratique, elle tient la vie pour sacrée. Joanna Macy l'appelle le ver de lin, le ver de lin de soie. Joanna Macy, le verdement de soi. Donc, si vous allez à son nom, vous, sur Internet, Joanna Macy.
Le verdement de soi.
C'est une expression. C'est une expression qui explique que nous avons besoin de nous reconnecter à l'âme du monde, de retrouver cela. Et c'est important de comprendre, et ça vous le savez, que la douleur que vous éprouvez quand vous travaillez avec la population que vous rencontrez dans le travail, elle provient de l'interdépendance, elle provient de la compassion, elle provient de l'interconnectivité. Il y a une autre histoire qui s'appelle le filet d'Indra. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent ? Indra, c'est un dieu indien, de la mythologie indienne. Et le filet d'Indra, c'est imaginer, fermez les yeux, et vous avez un grand filet de pêcheurs, et vous tenez ce filet comme 100 autres personnes qui tiennent ce filet, et on l'écarte. Et ce filet, à chaque nœud, il y a un diamant. Et dans ce diamant se reflète le soleil et la lumière de chacun qui tient le diamant, qui tient le filet. Et ce qui est étonnant, c'est que quand il y a une énergie positive, le filet monte vers le haut. Et quand il y a de la tristesse ou du deuil, le filet descend et tout le monde le tient. Et c'est ça, c'est important, cette image, parce que c'est ça la compassion, c'est de vivre dans les chaussures, dans les petits souliers des autres personnes qui ont ces émotions difficiles. Desmond Tutu, qui faisait partie du travail à faire avec en Afrique du Sud, quand Mandela est sorti de ses 27 ans de prison, a dit, on appelle ça Ubuntu, mon humanité est inextricablement liée à la vôtre. Et il parlait, il n'était pas un bourreau, et les personnes, les blanches, n'étaient pas non plus les bourreaux ou des victimes ou quoi que ce soit de ce qui allait arriver. Donc, cela a permis, grâce à cette façon de voir les choses, de revenir à l'échange, à écouter ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Et à partir de là, il y a des larmes qui tombent et on est touché. Et c'est ça la compassion, Et cela désarme, cela enlève toute envie de vengeance, de brutalité, d'autres choses. Voilà. Alors on peut appeler ça l'activisme de l'âme. C'est éveiller une relation tangible avec le divin. Vous voyez, on va dans des sphères beaucoup plus subtiles. Et ça, vous le vivez en méditation. Et ça, on peut le vivre aussi à travers des rituels qui sont une forme de langage symbolique de l'inconscient. On peut le vivre à travers des danses, des chants, des exercices collectifs comme on a fait dehors, c'est parfait, et comme on a fait avec Méditamond. Voilà, nous sommes tous en quête de sens. Et c'est ça que vous êtes venus chercher, afin de pouvoir continuer votre travail avec la force et la puissance du guerrier, de Bodhisattva. Et c'est ce que vous êtes. Donc, nous avons aussi besoin d'incarner notre rôle de vrai aîné, A-I-N-E. Nous sommes des aînés, nous sommes des personnes qui savons déjà comment travailler avec l'émotion, la difficulté et tout ce qui va arriver après. Parce que les gens ne sont pas prêts et ils ont besoin d'avoir ces repères et de les trouver en vous. C'est ça qui est important. Vous êtes les éclaireurs. Cela va aider les autres à se préparer, découvrir et incarner leur âme et leur rôle sur Terre. Parce que la plupart du temps, ils n'ont aucune idée. Pourquoi suis-je venu sur Terre ? Cela va permettre de prendre soin de l'âme du monde. C'est le défi du 21e siècle. Et c'est votre rôle en tant que guerrier de Shambhala de relever ce défi. Donc, le premier axe, c'était honorer notre souffrance pour le monde, avec le monde et en nous. C'est-à-dire ressentir vraiment qu'est-ce qui chavire, qu'est-ce qui a peur, qu'est-ce qui a besoin de se reconnecter, de parler de ça. Le deuxième axe, il s'agit de changer de regard. Portez un nouveau regard pour aller de l'avant. Parce que si vous restez dans la même dynamique de tout ce que vous avez vécu, business as usual, on dit en anglais, hein, c'est le business comme d'habitude. Ah oui, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Cette année, on utilise plus de pétrole, de gaz, de charbon en France que l'an dernier et que les autres années. De plus en plus. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc on a besoin de faire ce travail. C'est urgent, changer de regard. Joanna Macy en parle dans des livres qui ont été traduits en français. L'espérance en mouvement, vous pouvez l'écrire, vous trouverez la spirale du travail qui relie. Le travail qui relie, c'est s'enraciner dans la gratitude d'avoir cette terre, cette beauté, cette... J'ai pas de mots pour ce qui arrive, ce qu'on vit. Hein. Ensuite, honorer la souffrance de ce qu'on voit disparaître et de ce qu'on voit dans la destruction, etc. Et nous avons besoin de faire beaucoup de place à ça avant de passer à autre chose. Donc, ensuite, ça nous aide à avoir un nouveau regard pour aller de l'avant. Elle l'appelle aussi le changement de cap, the great turning, le grand tournant, le changement, faire un tournant Oui, c'est ça. Voilà. Nous avons besoin de faire ça. Et Donc c'est un voyage mythique qui a le pouvoir de nous transformer. Les Touaregs disent ça dans un proverbe. Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. Ça parle. C'est ça la compassion aussi. Pour nous aider à changer de regard, nous avons besoin de remettre les choses en perspective. Et donc, fermez les yeux et je vous emmène dans le temps profond. C'est notre interdépendance à tout ce qui est né avant nous. Les aborigènes l'appellent le temps du rêve. Imaginez que les 4,6 milliards d'années de cette Terre, c'est ça, c'est son âge, représentent une année. Donc, au 1er janvier, le début de l'histoire de la Terre. Le 26 janvier de cette année, c'est l'arrivée de la vie. C'est-à-dire, il y a 3,8 milliards d'années. Le 3 avril dans cette même année, c'est la photosynthèse. Commence la respiration et l'oxygène commence à venir sur Terre. Le 24 septembre, le premier organisme multicellulaire. On avance vite hein, dans l'année. Le 22 novembre, c'est la première plante qui arrive sur Terre. Le 1er décembre, c'est les premières forêts. Le 6 décembre, c'est les premiers reptiles. Le 14 décembre, c'est les premiers mammifères. Le 25 décembre, c'est les primates. Le 31 décembre, sur cette année, qui représente 4,6 milliards d'années, cette Terre. Alors, c'est toute une année. Le 31 décembre, c'est Homo sapiens. Le dernier jour de l'année. Le dernier. Et la dernière seconde de l'année, c'est la révolution industrielle. Sachez que nous sommes la seule espèce, depuis le début de la Terre, qui peut éviter son extinction. Et vous êtes ces personnes qui vont aider la Terre, le monde, à retomber sur ses pieds, à parler, à vivre avec empathie, avec des qualités inconditionnelles, on les appelle comme ça, parce qu'elles ne sont pas conditionnées par les aléas de la vie. C'est ce qu'on apprend en méditation. Elles surgissent à l'intérieur de soi. Elles nous relient, elles changent notre regard. Et il y a l'appartenance, l'engagement, la raison d'être, la loyauté, la confiance, la clarté, la paix, le courage, la bonté, la douceur, l'amour, etc. etc. Et ces qualités, vous les portez et vous les pratiquez. Parce que vous méditez. Quand on a demandé à Mère Teresa, que faut-il faire pour changer ce monde ? Elle a répondu, vous Au revoir. Elle a répondu, vous et moi. Que faut-il faire pour changer ce monde? Elle a répondu, vous et moi. C'est donc un travail profond intérieur. C'est l'autre loi de la jungle. Ce n'est pas du tout celle où les animaux se mangent et se battent pour leur vie. Il n'y a plus de hiérarchie dans ce travail profond. Il y a de l'entraide. Il y a la circularité, la réciprocité et la diversité. Et ça, on a besoin de l'apprendre, surtout quand on reçoit tous les migrants qui traversent la Méditerranée. Et quelque chose que j'ai entendu récemment, qui est choquant. On a demandé à un des migrants qui avait été sauvé, parce que tous ses copains sont dans la mer, ils sont morts. La plupart ne savent pas nager. On a demandé, quelle est leur dernière parole? Qu'est-ce qu'ils disent en dernier avant de couler? Il a répondu, vous savez, ils disent leur nom. Ils disent leur nom. Ils disent pas « Sauvez-moi à l'aide, je coule ». Non, ils disent leur nom. Ils se rendent compte que quand ils disparaissent, leurs parents, leur famille, personne ne va les retrouver. Et que si quelqu'un est encore vivant et peut entendre, peut-être, il y aura une connexion avec leur famille. Ils disent leur nom et ensuite ils coulent. Je ne sais pas si j'aurai la force de faire ça, mais dans la panique. Donc, quelle est votre mission sur Terre? Posez-vous la question. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà posée, puisque vous avez été dans ce début méditation santé, et c'est tout à fait ça le but de ce diplôme universitaire, de pratiquer la pleine conscience, et de trouver ce qu'on recherche, la quête de vision, de relever un défi. C'est ça les guerriers de Shambhala, de découvrir vos forces intérieures, une cause commune, visionnaire. Vous êtes des visionnaires. Comme Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Et ben voilà, c'est arrivé. Et vous aussi, vous pouvez dire « I have a dream » et mettre en place ce rêve pour qu'il se réalise. C'est votre part du travail, du bodhisattva. Et donc, votre travail sera aussi de créer des réseaux de tempêtes. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire des réseaux d'entraide, de communication, de savoir-faire, hein, au-delà de ce qui est familier, de ce qu'on a l'habitude de faire, d'autres actions. C'est un peu la métaphore de l'accouchement d'ailleurs, parce qu'il y a le risque, et dans l'accouchement aussi, on ne sait jamais ce qui va arriver. Si on regarde Béatrice, qui est une spécialiste de la pleine conscience et l'accouchement, et aller vers elle pour connaître cette discipline, c'est merveilleux. Et elle est en train de mettre ça sur place à Nîmes. Béatrice Bermelienne. Lève-toi, Béatrice. Tout le monde la connaît, bien sûr. Bon, voilà. Merci, Béatrice. Donc il s'agit de créer de nouvelles alliances et d'autres, avec d'autres cultures et avec des êtres vivants non humains. C'est là qu'on apprend des animaux, c'est là qu'on apprend de personnes qui vivent dans la forêt, comment ils vivent, les aborigènes, tout ça. Il y a de plus en plus d'engouement pour ça, parce que finalement, on revient, on va revenir à ça. Vous avez tous des portables, mais attendez, dans 15 ans, il n'y aura plus suffisamment d'électricité pour les alimenter. Ça va s'écrouler, ça. Et vous aurez besoin de retourner à votre fixe. Donc, allez vite chercher un fixe avant que votre portable disparaisse. Parce qu'il n'y aura plus la connexion. Dans 15 ans, 20 ans, bon. Sachez que, pour comprendre le fait que vous êtes puissante, puissant, et bien que la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avait combien de personnes dans cette population ? Seulement 1,3% de la population française faisait la résistance. On en parle clairement, on croit que c'est la moitié du pays, c'est pas vrai ? Seulement 1,23% de la population française. Donc il s'agit d'une masse critique et vous faites partie de cette masse critique. C'est votre rôle. Je terminerai avec deux ou trois plus commentaires de plus. Il y a la métaphore de l'huître qui fait sa perle autour du grain de sable qui la traumatise. Et donc quand on vit un traumatisme, qu'on voit quelque chose de difficile, on a besoin d'apprendre à faire cette perle autour, avec la compassion, avec la sagesse de savoir que tout est connecté. Et que ce qui arrive autour de nous, ça nous arrive aussi. Et qu'on a besoin de l'écouter, de faire face. Nous avons donc besoin de construire des passerelles entre maintenant et le futur. Il y a des démarches qui se font déjà. Donc il y a Joanna Macy chez les Américains. Et il y a aussi Christo Corbo qui a écrit un livre, « Vivre en écolieu ». Donc je l'écrirai là. Et il dit « Le monde de demain se construit aujourd'hui ». Il s'agit d'avoir un pouvoir avec et non pas le pouvoir sur les autres. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à un groupe que nous pouvons faire pour voir comment on peut faire ce travail ensemble, ou s'entraider, ou en parler, ou je ne sais pas, j'ai aucune idée de comment ça peut. Mais à tous, on a tous des idées formidables. On peut tous faire quelque chose ensemble. Je fais passer cette feuille et vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone, votre coordonnée. Voilà. Et puis, je mettrai des plaquettes si vous voulez me contacter aussi. Voilà. Là-bas au bout.
Merci Anne. Merci. Une question. La permanente suivante sera en zoom.